Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sur 89.4 FM à Paris en région parisienne et www.radio-libertaire.net. Le Ferry Club dans quelques millièmes de seconde.
En l'an 2000, plus de musique.
Déjà, tu veux me dire quoi là?
Ferry Club.
Ferry Club, la radio libertaire, voilà.
Je m'appelle Léo Ferré. Je suis né le 24 août 1916 à Monte-Carlo. Dans la vie, j'écris des chansons. Il y a bien longtemps, personne ne m'écoutait. C'était difficile. C'est toujours un peu difficile de vivre, pour tout le monde, pour les poètes aussi.
Mais c'est Léo Ferré lui-même.
Oui, c'est en effet Léo Ferré lui-même qui a bien voulu illustrer de sa présence notre soirée que je veux consacrer à la publication de ce livre Poète vos papiers.
C'est un baptême en quelque sorte.
Non, ce n'est pas un baptême, c'est beaucoup plus qu'un baptême, c'est une consécration. Écoutez-moi bien, Poiré, mon ami, ce n'est pas tous les jours, ni même tous les ans, que paraît un ouvrage dont on peut affirmer que c'est un événement poétique.
Vous devenez un pédagogue lyrique, dites-moi donc.
Mais non, il ne s'agit ni de pédagogie, ni de lyrisme, mais de ce phénomène éblouissant qu'on nomme poésie. D'ailleurs, j'estime que nous ne devons ni discuter, ni commenter, mais faire écouter à nos chères auditrices et auditeurs les poèmes de Léo Ferré.
Nous, d'une autre trempée, d'une singulière extase, nous de l'épique et de la déraison, nous des fausses années, nous des filles barrées, nous de l'autre côté de la terre et des phrases, nous des marches, nous des routes, nous des bordels intelligents. Oh, ma sœur, la violence, nous sommes tes enfants. Les pavés se retournent et poussent en dedans. J'ai l'impression démocratique qui me fait des rougeurs à l'extrême côté du cœur et des entrailles. J'entends par là mes tripes à la mode de mai. Je vous commande d'être bref et couillosif. J'ai le sentiment bref de ceux qui vont mourir, mais je ne meurs jamais, à moins que je sais des assassins qui n'ont pas de victimes, qui s'en vont faire la queue pour voir le sang d'écran et cette pellicule objective qui pellicule sur le vif. Surtout, ne pleure pas, les larmes, c'est le vin des couillons, moi. Je ne pleure plus, et je le dis bien haut, bien tendre aussi, et bien à l'aise. Crevez-leur le paquet qu'ils portent sur leur quille. Marx était un hippie. C'est pas comme en 17 à la consigne, dans cette rue si rouge à la lénifaction, et personne jamais n'a été réclamé. Ce barbu stalingradé, quand je vois un stalinien, je change à Stalingrad. Je sais des assassins qui ont le cran d'arrêt, et qui sont beaux, comme les cons qui vont voter. Ces assassins assassinés et leur manière à ne jamais vouloir crever comme crevèrent les communards, mes frères, et je le dis bien haut. Il faut déconstitutionnaliser le foutre et porter l'inconfort cousu dessous leur peau à ces bourgeois qui se permettent de jouir un autre. Je vous commande d'être bref et cartésien. Je sais des charmes bruns qui sont de sang caillé et qui se grattent comme on gratte une blessure, ça vous ravive un peu de rouge. Ça a l'allure d'une légion d'honneur que l'on pardonnerait. Ô ma sœur, la violence, ô ma sœur, lassitude, ô vous, jeunes et beaux, empêtrés dans vos livres, il faut faire l'amour comme on va à l'étude et puis descendre dans la rue. Il faut faire l'amour comme on commet un crime. Ô ma sœur, la violence, tes enfants s'analysent. Et du Guatemala, ça revient à des parfums de sang. Et des Guatémaltèques à l'anse analysant dans les ruisseaux de sang coulant comme la crème de la révolution montant. Oh, master la violence. Oh, la fleur du boucan. Il fait un bruit à rencarder tous les voyeurs. Et un bruit qui se voit. Ça vous a des couleurs à vous barrer la vue pour des temps et des temps. Je sais des bises sang ordant depuis l'Afrique. Le monde est court, la gosse. Il faut tâter la trique dans le pieu, dans la rue, mais tâter de cet ordre nouveau où germe le désordre, le beau désordre des voyous au ventre lisse. Viens par ici, la gosse, un peu, que je t'en glisse de ma graine d'amour, qui gonflera dans toi comme un chagrin de carne, sur ce monde envahi de tant de muselières. Dans le Paris des chiens, je vais l'âme légère, ô master la violence. Ô ma sœur lassitude, ô vous, jeunes et beaux, empêtrés dans vos charmes, il faut faire l'amour comme on va à l'étude, les yeux vers les jardins où fleurissent les armes, des armes, comme une esthétique de la solitude. Des armes, comme une sinistre compo d'anglish. What do you mean, gun? Je sens que nous arrivent des trains pleins de Browning, de Berettas et de fleurs noires, et de fleuristes préparant des bains de sang pour actualité color télé. Le sang, ça s'empexe tout ce qu'il y a bien. Le sang, c'est rentable dans la technique coloration, et je te ferai voir un sang vert quand il sera question de questionner. Je sais des fleurs d'amour qui pollènent les blés et qui vous font un pain que l'on mange à genoux, un pain de chair vivante et que l'on aimerait comme on aime une enfant qui cache ses atouts et qui les touche un peu comme on caresse une arme, un doigt sur la gâchette et le reste aux abois, et que cirise alors ta violette de Parme, enfant mauve de mon silence et de ma loi. Des armes comme une esthétique du pain sur la planche, des armes blanches comme l'aube blanche à Paris, cette aube comme le foutre de l'absence. Nous sommes absents, messieurs, l'amour, toujours l'amour. Cet amour malade, comme une drogue dont on ne peut se dédroguer, comme une drogue à laquelle je me soumets. Je suis un trafiquant d'amour. Des armes comme un sourire de l'autre côté de la tête, comme une façon de désarmer, comme un chien qui vous aime. Des armes qui vous lèchent, qui vous sortent, qui vous bercent. Et puis, le code de la peur à distribuer à tous ceux qui habitent avec la peur ou que la peur habite. Article 1, j'ai peur. Article 2, j'ai peur. Article 3, j'ai peur. Article 4, où sont les toilettes? Quand on est seul et armé, on n'est plus seul. Quand on est seul et désarmé, on fait une demande pour être CRS. L'amour, toujours l'amour, ah, cet amour serein, ce qui vous monte à la bouche comme une grenade qu'on ferait bien éclater dans quelques ventres passants, dans quelques ventres curieux, oisifs, en mal d'amour, des armes, comme un planning de la résurrection. Et quant aux armes blanches, on pourrait les teinter de rouge dans une teinture particulière et à la portée de toute portée, nous, d'une autre trempée, d'une singulière extase, nous de l'épique et de la déraison, nous de l'autre côté de la terre et des phrases, ô ma sœur la violence, ô ma sœur de raison, au quartier des terreurs, tes enfants se sont mis à brouter des étoiles, la voie lactée s'est mis donnée dedans leur toile, et la carte du ciel, dans ce quartier de France, indiquait aux passants la route à ne pas suivre. Il brumait dans le ciel des paroles de givre. C'était d'un cinéma nouveau et d'une danse qu'on ne danserait plus avant longtemps. Nanterre se prenait pour Paris et le tour de la terre se faisait sur un signe, une pensée de fièvre, un désir de troubler les fleurs et les manières, une particulière oraison, un sourire à mettre les pavés à hauteur d'un empire. Le sable des pavés n'a pas la mer à boire. Ça sent la marée calme dans les amphis troublés. Des portes de secours sont ouvertes. Là-bas, il suffit de pousser un peu plus. Rien qu'un geste.
Le Ferré Club, 21 juin, on lui fait sa fête à la musique. Eh ouais.
Dans ce cadre des débuts difficiles, nous avons voulu vous présenter une vedette qui est maintenant consacrée, et j'en suis d'autant plus heureuse que je suis depuis toujours une fervente admiratrice, mais une vedette qui a connu vraiment des débuts difficiles. Voici Léo Ferré. Ça fait plaisir, non?
Oui.
Vous avez eu des débuts difficiles.
Oui, oui.
C'est pas la peine que je vous les fasse raconter, c'est l'histoire de votre vie tout entière.
Oui, mais je commençais à respirer difficilement, c'est dès que je suis
né. Dites-moi, Léo Ferré, à votre avis, qu'est-ce qui freine le plus un acteur qui débute, un artiste de tout ordre? Est-ce que c'est le goût du public ou bien les gens qui doivent l'employer?
Le public ne freine jamais. Car le public, quand il est là pour entendre l'artiste, ou il est content, alors il l'applaudit, ou il le siffle, alors l'artiste s'en va, n'est-ce pas?
C'est vrai. C'est le grand juge.
Oui, mais ce qui nous empêche, nous, quand on est jeune, enfin quand on débute, de travailler, ce sont les gens qui sont entre nous et le public. Vous comprenez? Les directeurs, les imprésaries, avec des grands bureaux, vous savez.
Ah oui.
Ça, c'est terrible. Il faudrait supprimer tous ces gens-là.
Je ne tiens pas à les défendre, mais tout de même, on dit quelquefois que certains artistes sont découverts par un impresario qui, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, a eu du nez et pressent leur génie.
Mais
votre
moi,
génie n'a pas été pressenti.
Moi, on m'a découvert 150 fois.
Non, mais attendez, d'abord, vous avez écrit des opéras, je crois.
Non, je n'ai pas écrit des opéras, j'ai écrit un opéra.
Ah oui, oui. Sur un poème d'Apollinaire.
Oui.
Oui.
Ce n'est pas un opéra, c'est un oratorio sur la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. Et c'est une grande chanson en musique. Ce sont des choses qui ne font pas beaucoup d'argent, même quand elles sont jouées.
Ah, ça n'a pas. On en a fait un disque.
On en a fait un disque, oui.
Ah, et qui est devenu ce disque?
Ben actuellement, je suppose qu'il doit être au puce, car le disque est épuisé. Et la maison qui a fait ce disque se garde bien de rééditer ce disque, même s'il y a des clients pour ça. Vous.
Enfin, de toute façon, il y a des clients pour d'autres disques. Et cette
mystère,
année.
Mystère.
Oh oui, c'est très curieux. Cette année 61, tout d'un coup, vraiment, le public a senti et vous avez atteint le grand public. J'ai lu ça dans un journal. D'un seul coup, on a dit, enfin, Léo Ferré touche le grand public.
J'ai atteint, vous savez, le grand public.
Voilà. Bon, très bien. Avec, je crois, quelle chanson est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez atteint, enfin, le grand public, comme disent les
c'est quand il est venu m'entendre chanter, que vous voulez, dans une grande salle, et quand ça a marché, vous savez, moi je suis. Si je m'étais fait siffler souvent, j'aurais changé de métier, j'aurais été planter des pommes de terre. Or, il se trouve que les gens sont contents de venir m'entendre chanter, alors moi je suis content de chanter pour eux, puis ça marche.
Eh bien, c'est
mais
très
il n'y a personne entre moi et eux, vous comprenez?
Oui, oui.
Je les ai supprimés.
Dans tout, il fallait vous donner votre chance.
Eh bien, oui.
Bon,
mais
très...
la chance, comme on dit dans mon pays, je me la suis prise.
Écoutez, je crois que de toute façon, quand on a une personnalité aussi marquée que la vôtre, et une personnalité en général, il se peut que ça prenne des années pour s'affirmer, mais il faut s'y accrocher, et ça finit toujours par marcher. Parce que quand on vous dit, j'ai pas eu de chance, j'avais du talent, et ça n'a pas marché, c'est pas vrai. Du moment qu'on a du talent, moi je crois qu'à la longue, tout de même, ça finit par se... les gens, le public, en tout cas, vous voyez, j'en bafouille, tenez.
Mais je voudrais vous dire quelque chose.
Je bafouille rarement, mais dès que je parle de talent, je bafouille.
Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des débuts difficiles.
Oui,
et puis,
c'est sûr.
Il y a des débuts qui ne sont pas difficiles. Il y a des gens qui débutent en trois quarts d'heure et qui se cassent la figure trois mois après. Ça existe aussi.
C'est ça qui fait plaisir. Ouais. En tout cas, cette année, vous allez nous chanter une chanson qui marque cette année, qui représente enfin l'année où vous touchez le grand public. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Léo?
Eh bien, je vais chanter une chanson sur les filles d'aujourd'hui. Et cette chanson s'appelle Jolie Môme.
Tire tes cheveux un peu sur la droite. Non, pas sur ma droite, sur ta droite. Ta droite, là où je vis, là où je meurs. Enfin, je t'expliquerai. Chez nous, la mort, c'est différent. Là-bas où je vis, donc, c'est plus facile pour que tu comprennes. Là où je vis, il n'y a ni droite ni gauche. Oui, oui, moi j'ai appris la droite et la gauche ici, dans ta rue. Dans tes aéroports, sur la mer quand on regarde loin depuis la fenêtre de ta chambre ou de la mienne. Je le leur explique aux autres et à moi quand je retourne. Eh bien, nous n'arrivons pas à comprendre. Comment tu t'appelles, dis? Comment? Ah, c'est joli. Je pensais que tu étais un garçon. Tiens, chez nous, on se ressemble tous. Si tu te maries avec moi, tu peux, oui. Je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes? Je t'aime fort parce que tu es resté après la fin. Pour moi, il n'y a jamais la fin. Je commence avec toi ce soir. Je reviendrai demain? Après-demain? Peut-être. J'ai envie de te parler. Ne dis rien à personne. N'aie pas peur. Surtout tais-toi. Les autres, ils ne penseront pas comme toi. À rester après. Eux, ils sont toujours avant. D'ailleurs, si tu leur racontes que tu as vu Marie-Jeanne, ou qui tu voudras, ou ce que tu voudras, on ne te croira pas. Et c'est bien comme ça. C'est bien. Je ne suis pas, et je suis en même temps. Tu comprends? C'est difficile, hein? Pas tellement, si tu savais. Comme c'est facile. Facile. Le temps, c'est mon ami. On joue ensemble. Je t'apprendrai si tu veux. Je reviendrai? Oui, je ne sais pas quand. Ne ferme jamais trop vite. Tu as bien le temps. Les nuits sont longues. Et puis le temps? Ce sera peut-être notre ami à tous les deux? Peut-être. Je t'aime.
Léo Ferré, la musique ne paie pas toujours son homme. Vous avez été glorieux, tout de suite, mais le succès n'est venu que très tard. Est-ce que vous en avez souffert?
Je souffre pour la musique. Pour moi, la musique, c'est pas la chanson. Moi, je suis musicien, j'ai des tas de choses dans les tiroirs. Je pense que la musique, est singulièrement dans notre pays, et encore plus singulièrement à la radio française, c'est une histoire de petits copains, de comités. Il y a un comité de la musique, d'ailleurs, où des gens sont de l'institut, n'est-ce pas, etc. Alors, il y a des comités qui lisent la musique qu'on leur envoie, ou qui ne la lisent pas. De toute façon, j'avais écrit une œuvre. Ça vous gêne pas ce que je vous dis? Ça,
non,
mais c'est la vérité, vous savez.
Non, mais je vous écoute, les petits copains, c'est partout, de toute manière. Non?
Mais les petits copains, c'est partout. Oui, mais c'est.
Surtout
d'ailleurs,
dans la chanson, d'ailleurs.
Je crois pas, non.
Vous n'avez jamais essayé de pousser des petits copains dans la chanson?
Non, mais ne me déviez pas, je voulais vous dire quelque chose d'important.
Vous me parliez de la musique.
Oui, un jour, j'ai mis en musique la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire. J'ai mis un an à écrire ça. Et comme je ne savais pas comment me faire jouer, parce qu'il y avait un grand orchestre symphonique, je connaissais M. Gilson, qui était un poète, et qui était aussi un fonctionnaire. Et je suis allé le voir, il était directeur des programmes, c'était un monsieur très affable, très gentil. Je suis allé le voir, et il m'a dit, vous savez, je ne peux pas prendre ça sur moi, nous allons faire descendre le comité. Alors il a fait descendre un vieux monsieur, qui était un ancien altiste dans un quatuor perdu, je ne sais où. Et ce monsieur est arrivé, a dit, oui, d'accord, je suis le comité. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que le comité? Il m'a dit, monsieur, le comité, c'est la musique. Alors, je me suis levé, j'ai quitté Gilson, et j'ai dit, je rejoins Apollinaire, qui n'a pas voulu monter. Et d'ailleurs, 6 mois après, on m'a rendu ma musique, avec qui n'avait pas été lue, parce que, méchamment, j'avais collé des pages, n'est-ce pas, avec du scotch. Alors, elle n'a pas été lue. Alors, on m'a rendu cette musique et je pleurais dans la rue parce que j'estimais que c'était mauvais. Vous comprenez, je croyais que le comité de la musique était vraiment la musique. Et alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'on n'avait pas lu la musique. Bon, tant pis. J'étais dans une maison où je chantais des chansons qui s'appelaient la Maison Odéon. Et je devais renouveler le contrat. Et au lieu d'avoir de l'argent pour renouveler le contrat, j'ai dit, enregistre-moi cette musique. J'ai dit, et enregistre-moi cette musique sous ma direction avec l'Orchestre National de la Radio Française. Ça s'est fait en 57. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, la chanson du Mal-aimé, même cette année, où il y a eu le cinquantenaire de la mort d'Apollinaire, où il y a eu toute une journée consacrée à Apollinaire, on n'a jamais, depuis 10 ans, on n'a jamais passé la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire mise en musique par moi. Alors ça doit être très mauvais.
Mon cher Éclat sur Radio Libertin. Maintenant je le connais bien, le cher Éclat. Mais avant, je ne sais pas quoi.
Da e basta. Che cosa faccio qui a quest'ora? In attesa di non so quale suono di telefono che mi porti una voce da qualche parte, qualcosa di fraterno, di ribelle, di pulito, di solo per il piacere, qualcosa che parli di nulla, di lacrime ne ho troppe, tu ne vuoi qualcuna? E poi di che cosa? Il silenzio, lui, non telefona mai. E va bene così, va bene. Guido Armellini.
Je vais essayer de vous dire en vrac ce que j'aime dans la vie, ou dans ma vie, et ce que je n'aime pas. Je sais que vous avez envie que je vous dise ce que j'adore, ou ce que je hais, c'est plus fort. Eh bien, allons-y. J'adore les spaghettis, avec la sauce tomate et le parmesan, pas les spaghettis tristes et mal cuits, la pissaladière aussi, Si j'ai le temps la prochaine fois, je ferai comme Monsieur Oliver et je vous donnerai la recette de la vraie, vraie pissaladière. Elle a un secret. Maman me l'a donné. Les raviolis, n'en parlons plus. J'adore les chiens. Ça, c'est autre chose. Tous les chiens. Je ne peux pas vivre sans chien. J'ai dû être chien dans une autre vie. Les chevaux, les éléphants. Si un jour je suis très riche, vous voyez ce que je veux dire. Je vais finir par vous raconter ce que j'aimerais avoir. Non, ça aussi, c'est un autre chapitre. J'adore la vie. J'ai une peur atroce de mourir. Même très malheureux, je n'ai jamais voulu mourir. J'adore la musique, la belle musique, c'est tout. C'est beaucoup d'adoration. Eh bien, j'ai au moins autant de haine. Je hais la bêtise sous toutes ses formes. Ça ne veut pas dire que je me pense et veuille me faire paraître pour très intelligent. Sincèrement, je ne sais pas ce que c'est que d'être très intelligent. On est intelligent pour ceci ou pour cela. On est doué. On a du talent. Le génie, vous savez la phrase de Jacques Ibert, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Je hais l'ennui. Et la bêtise, disent-ils, l'ennui. La bêtise au front de taureau, comme disait Baudelaire. Remarquez que je ne suis pas tellement d'accord avec lui, car je préfère personnellement le taureau au toréador. Enfin, passons. Je hais les gens faux et hypocrites. Je hais la lâcheté morale. Je ne hais pas celui qui fuit sous les bombes, car je hais la guerre. Je n'aime pas la musique dodécaphonique, qui, comme son nom l'indique, compte les demi-tons comme on compte les huîtres, à la douzaine. Je n'aime pas les meubles modernes, la pluie quand elle s'attarde, le plastique quand il quitte la cuisine et qu'il se prend pour un objet d'art, les académies, quelles qu'elles soient, car on y vieillit trop vite, les jurys, je hais les jurys de toute mon âme, les critiques, quand pour faire un mot ils détruisent une pièce de théâtre ou un livre, les critiques à l'aise devant un art difficile. Je hais la foule muette devant un pantin de la politique. Je hais, au fond, je hais ce qui est haïssable, comme on dit. Et cela fait beaucoup, au bout du compte. J'adore le soleil, tous les soleils. Je hais les cours sombres et humides. J'adore les fleurs des champs. Je hais les fleurs artificielles. J'adore les gens qui cueillent les fleurs des champs. Je hais les gens qui achètent des fleurs artificielles. J'adore le vent, la nature, le bruit des choses de la vie simple. Je hais le bruit des voitures devant ma maison et les trompettes de l'apocalypse quand elles font pimpon comme les pompiers et l'ambulance. J'adore l'air libre et que l'on respire à grande gorgée avec un être qu'on aime et qu'on adore.
Noir de loupe, grêlée, les yeux cerclés de bagues, vertes, leurs doigts boulus, crispés à leurs fémurs. Le sein cipute plaqué des agnosités vagues, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leurs ou les yeux à la vitre où se fâlent les lèges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud, et les sièges leurs ont des bontés culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans ses tresses des puits où fermentaient les grains, et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambours s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds d'or. Et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves ou qui accrochent l'œil au fond des corridor. Puis ils ont une main invisible qui tue au retour. Leur regard filtre ce noir, ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue. Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir, assis, les poings noyés dans des manchettes sales. Ils songent à cela qui les en fait lever. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amidale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère leur sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de petits, de vrais petits amours, de chaises en lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés, des fleurs d'encre crachant, des pollens en virgule, les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls, le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
On peut quand même raconter cette anecdote. Si vous pensez encore aujourd'hui qu'elle est importante, cette anecdote de la rencontre avec la cinquième de Beethoven dans la crèmerie, on peut la raconter, sinon on passe à autre chose.
Mais c'est pas important pour moi, vous savez.
Oui.
Oui, parce que les gens ne peuvent pas imaginer l'impression que j'ai eue ce jour-là. Ma mère venait me voir de temps en temps, un jeudi elle était venue me voir, lorsque ma mère venait, j'étais content, j'allais pas à la promenade avec les autres, j'allais me promener avec ma mère. On allait du collège jusqu'à... c'était le village de Bordiguerre, était à... de 3 km, j'allais à pied avec elle, elle m'amenait dans une petite crèmerie. Je reconnaîtrai bien sûr aujourd'hui, le même vieilli bien sûr, ce monsieur qui m'apportait le cappuccino, c'est-à-dire le chocolat avec la petite crème. Et il y avait une radio, une des premières, donc c'était donc là, ça c'était en 1929 quoi, hein. Et de cette radio sort une chose magique, un truc extraordinaire quoi. Le castor, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte, le bon Dieu, le crépuscule, l'amour. Le début de la cinquième de Beethoven, et je me suis mis à pleurer immédiatement. Et en étant un peu étonné. Et ma mère me dit, pourquoi tu pleures petit? Alors je dis, parce que tu vas t'en aller tout à l'heure. C'était pas vrai. Bien sûr, ça m'embêtait que ma mère s'en aille, mais ça ne me faisait pas pleurer. Et j'ai eu honte de lui dire que je pleurais à cause de cette musique. Bon, pour moi, c'était quelque chose de défendu absolument, quelque chose qui me faisait pleurer comme ça, instantanément, sans que j'aie pu l'imaginer une seconde.
Le charbonnier de Rotterdam. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Il était dans le port à Monaco. C'était un charbonnier, oui. Il amenait le charbon pour l'usine à gaz. Alors nous, on s'amusait. On se prenait pour le charbonnier, on l'attendait venir. On l'attendait. On allait de l'autre côté, là-bas, du côté du palais du prince, sur les remparts. On le voyait arriver, on savait quand il allait venir. On dit, Léo, le charbonnier, ah! On gueulait comme des ânes. On le voyait entrer dans le port. Il arrivait, il se mettait à quai, près de l'usine à gaz. Et à ce moment-là, on commençait, on était le charbonnier. Ah, tu comprends? Charbonnier. Cosette, châtain clair, peau de banane, peau de basane. On s'embrassait entre deux. Il ne me déplaisait pas de trouer ses chastes complexes. Cosette, goût de cierge, fleur malade. Cosette, mon jardin de Dévenne. Quand je la reconstruis aujourd'hui, elle m'échappe un peu. Je n'arrive pas à me souvenir de tout, des riens, des fièvres rapides, des hauts, des bas. Le froid aussi, quand elle me regardait de côté comme si elle voyait des choses. Cosette, c'était ma pureté aussi, ma vie cachée. Elle était celle avec qui je partais la nuit, vers le Caucase, vers les pays de mes problèmes. Quand elle mettait sa jupe noire, je la bénissais. Ça, c'était quand on était après... On était avec Cosette, avec le charbonnier de Rotterdam. Je la bénissais. Quand elle mettait les bas de sa mère, l'après-midi, dans cette maison d'ombre, aux persiennes ajourées, les jalousies laissaient filtrer un peu de cette lumière des amants, pas trop, juste pour voir avant de faire. Juste pour voir avant de faire. Le soleil en lamelle, dans cette chambre où flottait un relent d'huile d'olive, que sa crasse précise fixée dans mes narines, jouer sur mon corps comme sur un vitrail. ses bas pendaient comme des reliques de fil au-dessous de l'air bleu de son virginal. Je le voyais bleu comme le ciel après l'amour, quand les plantes sont pleines de vie, à même les carreaux rouges, parce qu'il faisait chaud, sa chair beige, prête aux pâles, que je ne pouvais lui offrir, attendait que je ne sais quelle bénédiction, et je palliais l'insuffisante promesse qu'elle était en droit d'attendre de moi par une suite de manigances de lèvres qui se faisaient tantôt pêche, tantôt pieuvre, tandis que mon index aiguisait son geste. Le soleil, toujours filtré, y jouait. Elle commençait à jouer, elle aussi, comme un nageur, sur l'eau plate du pavement. Je le touchais. Il était tiède comme le lit. Le pavement strié par le temps et humide un peu, à un seul endroit de son désordre de pucelle, dans le pré râpé de son prétend de 13 années, je cherchais la racine du mot amour et je m'y employais longtemps. C'est là qu'elle chantait cette chanson grégorienne qui collait comme une prière. Et ses paroles, je les buvais. Des paroles comme la menthe qui laisse un long moment le souvenir dans la bouche. Bientôt, elle avait le Christ au bout des lèvres. Depuis des années passées à la mémoire, j'ai le privilège de recréer cette Cosette. Quand je le veux, je la vois sur ma table, comme un objet miniature fidèle au millième, comme une carte. Alors, entre deux cigarettes, je la prends, je la lis, et je retrouve le champ de menthe où je m'étanche.
Benoît Misère, 1970-71, Léo, un livre que tu as mis plusieurs années à écrire.
Oui.
La musique, elle doit faire pleurer. L'art doit faire pleurer. Si je dis ça du haut d'une cathèdre, c'est parce que c'est vrai, et c'est d'autres l'ont dit avant moi, donc je n'invente rien. La musique, c'est triste, la beauté, c'est triste, ça doit faire pleurer. Si ça fait rigoler, si ça fait gratter la tête, ou si ça fait sortir les snobs de leur cabinet, c'est pas de la musique, c'est d'autres choses. Voilà, c'est tout. Il me semble. Hein, bon. Puis Ravel en attend en France l'autre musicien.
Ton ombre est là, sur ma table, et je ne saurais te dire comment le soleil factice des lampes s'en arrange. Je sais que tu es là et que tu ne m'as jamais quitté. Je t'ai dans moi, au profond, dans le sang, et tu cours dans mes veines. Tu passes dans mon cœur et tu te purifies dans mes poumons. Je t'ai, je te bois, je te vis, je t'envulve et c'est bien. Je t'apporte ce soir mon enfant de longtemps, celui que je me suis fait tout seul, qui me ressemble, qui te ressemble, qui sort de ton ventre qui est dans ma tête. Tu es la sœur, la fille, la compagne et la poule de ce Dieu tout brûlant qui éclaire nos nuits depuis que nous faisons nos nuits. Je t'aime. Il me semble qu'on m'a tiré de toi et qu'on t'a sorti de moi. Quand tu parles, je m'enchante. Quand je chante, je te parle. Nous venons d'ailleurs tous les deux. Personne ne le sait. Quand je mourrai, tu ne pourras plus vivre que dans l'alarme. Tu n'auras plus un moment à toi. Tu seras mienne, par-delà ce chemin qui nous séparera. Et je t'appellerai, et tu viendras. Si tu mourais, tu m'appellerais? Je suis la vie pour toi, et la peine, et la joie, et la mort. Je meurs dans toi, et nos mœurs assemblées feront une nouvelle vie unique, comme si deux étoiles se rencontraient, comme si elles devaient le faire de toute éternité, comme si elles se collaient pour jouir à jamais. Ce que tu fais, c'est bien, puisque tu m'aimes. Ce que je fais, c'est bien, puisque je t'aime. À ce jour, à cette heure, à toujours, mon amour.
Page 125. Ô triste, triste était mon âme à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé. Bien que mon cœur, bien que mon âme eussent fui loin de cette femme, je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé. Et mon cœur trop sensible, dit à mon âme, est-il possible? Est-il possible, le fut-il, ce fier exil, ce triste exil. Mon âme dit à mon cœur, sais-je moi-même que nouveau ce piège d'être présent bien qu'exilé, encore que loin en aller. Ô triste, triste était mon âme à cause d'une femme.
Tenez, voici Léo Ferré et son ami Philippe Soupeau qui s'approchent du micro. Indiscret comme un trombone à coulisses, Philippe Soupeau n'a pas craint de poser d'étranges, de très étranges questions à Léo Ferré qui a bien voulu lui répondre.
Cher Léo Ferré, quelles sont vos réactions quand vous entendez un disque de vous? Et soit lorsque vous êtes seul, soit dans un café ou dans une boîte à musique ou... Quelle est votre réaction quand vous êtes seul?
Ce sont deux plaisirs différents. Souvent, même quand j'écoute une chanson, je veux dire, lorsqu'il y a longtemps que je n'ai pas écouté un disque chez moi, je vais écouter ma voix. Alors, souvent, je trouve que je chante un peu faux. Et je dis ça sans blague, quoi. Mais quelquefois, ça me plaît quand même. Lorsqu'il y a longtemps que je n'ai pas entendu un disque de moi, n'est-ce pas? Alors ça, c'est à la maison. Mais alors, au bistrot... Dans les machines à sous, vous savez, on a de la musique avec 20 francs, n'est-ce pas? Et quand j'en rentre dans un bistrot, quelqu'un met 20 francs pour écouter une chanson, alors là, c'est un autre plaisir. C'est un plaisir beaucoup plus professionnel, vous comprenez?
Est-ce que vous avez l'intention de composer un autre oratorio ou bien une œuvre de plus longue haleine?
Je ne sais pas, vous savez, c'est difficile l'oratorio parce que ça ennuie tout le monde, la formule de l'oratorio. Moi, j'ai fait un oratorio, jusqu'à maintenant, on appelait ça oratorio parce qu'il fallait bien trouver un nom à ça. J'ai écrit la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. Enfin, là, tout de même, c'est un morceau de choix, n'est-ce pas? Il ne faut pas tous les jours trouver un texte comme ça pour faire un oratorio.
Malheureusement. Et puis-je, pour terminer, vous demander tout à l'heure de chanter cette chanson de vous que j'aime beaucoup et qu'on entend très peu souvent parce que je crois qu'elle est très difficile, l'Opéra du Ciel.
Ouais, je veux bien vous la chanter, mais... Je vous assure que c'est vraiment extrêmement difficile, que ça ne va pas être très bon.
Il y a un invité qui arrive par hasard.
Lui, je l'attends depuis des années. Lui. Je lui téléphone chez lui, il ne répond plus. Maintenant, il n'est plus là. Je ne sais plus où il est.
Je suis à côté de toi.
Jean-Pierre Chapelle,
ça va? Je suis content de te voir.
Fais-moi la bise, ça va?
Moi, ça m'émeut de te voir depuis que je ne t'ai pas vu.
Et moi aussi, je suis content de te voir.
Tout. Le 31 décembre à minuit, j'ai un coup de téléphone, blagueur de Léo.
Eh oui, mais l'année dernière, j'ai téléphoné, il n'était pas là.
Hein. Non, mon téléphone a été coupé.
Ah.
Ça arrive à des gens très bien, ça, tu sais.
Ah bon? Ça va.
Ah, tu sais que je passe mon temps, moi, à chanter des chansons de Léo Ferré. Tout le temps. Je chante même des chansons que tu ne chantes plus depuis très longtemps.
T'as toujours la moto?
Oui, toujours.
Ah oui.
Elle tourne et se nomme la Terre. Elle tourne avec ses milliardaires. Elle tourne et le soleil se fout d'elle. C'est ma moto, ça.
Qu'est-ce que vous chantez encore de Ferré?
La vie t'a doublé, c'est pas régulier. Vois un pauvre lézard qui vit par hasard
dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler. Je suis un type à part, une graine d'ananas.
On me dit que t'as poussé en dessous d'un gibet où ton grand-papa
balançait déjà avec un collier.
Un collier
tressé de chanvre, il était un foutu foulard. Une graine d'ananas.
T'avais des copains qui mangeaient ton pain, car le pain c'est fait
pour être partagé.
Dans la société, c'est pas moi qui le dis,
mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard, la gueule d'ananas.
Si t'avais des sous,
on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Si je n'en avais pas, on dirait pourquoi
c'est jamais peinard,
la graine d'ananas.
Et c'est bien fini, je te le dis comme on le dit, et tu seras pendu au nom de la loi
et de la société.
La belle société qui se met à se mêler de foutre au rancard,
la graine d'ananas.
Petit à petit,
L'oiseau fait son nid, mais chez les corbeaux boufferont ta peau,
comme à l'étami.
Mais auparavant,
j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Ah, dis donc ça, hein. Oh là là, faire un duo avec Léo Ferré, là, tu vois. Pour là, là, je trouve que 88 s'annonce très bien, Léo. Moi, je lui souhaite des musiques et des poètes et une vie riche. Et puis que tous les gens qui l'aiment, qui soient autour de lui comme ça, et que sa cigarette ait toujours bon goût, et qu'il sache qu'il a quelque part, comme ça, un copain sur lequel il peut compter, sur lequel il peut téléphoner comme ça en disant « Voilà, j'ai besoin de toi, je peux pas te dire pourquoi, arrive !» Et le copain arrive. Et ça, c'est fort. C'est ça la vraie richesse. Voilà. Ce que je souhaite à Léo.
Ouais, moi, je te souhaite pareil. On a deux, trois copains comme ça. On est des trains, avec des rails, des fois, qui s'arrêtent juste au moment où il faut. Il n'y a plus de rails, et c'est trop chabrol. Hein?
Et avec Léo, il se passe...
Ou alors, il n'y a plus de rails à Marseille... Tu trouves mon copain là-bas.
Avec Léo, il se passe quelque chose entre sa tête et la mienne. J'en ai des preuves. Une fois, Léo me téléphone quelquefois, il ne m'écrit jamais. Et une fois, Léo m'a écrit une carte postale sur laquelle il avait écrit « Jean-Pierre, je t'aime, je te serre très fort dans mes bras, n'oublie pas que je suis ton Léo. » C'était posté à Aix-en-Provence le jour et l'heure de la mort de ma mère. Pourquoi tu m'as écrit ce jour-là, Léo ?
Eh oui.
Comment tu l'as su ? Et quand Brassens est mort, je m'en souviens toujours. Le téléphone qu'on a eu, moi j'étais très très heureux. Et la première personne à qui j'ai voulu téléphoner, c'est Léo, qui était chez lui en Italie, à Castellina. Et il s'est passé cette chose absolument miraculeuse, c'est que j'ai fait le numéro, 19, etc., etc. À l'autre bout, on a décroché. Et j'ai entendu une voix, j'avais pas dit allô, j'avais rien dit. Une voix qui a fait, c'est toi Jean-Pierre. Et pendant une minute, on s'est écouté respirer, Léo et moi. On s'est dit, l'ami est parti. Et on s'est écouté respirer. Et c'était extraordinaire, ça. Bon, je vous laisse travailler, allez. Salut Léo, je te remercie très fort.
Ciao.
Bonjour Maria. Aux enfants, tu m'as
entendu, au revoir. Il y a quelques années, dans l'Eure, dans le département de l'Eure, je louais une petite maison le samedi pour aller faire un petit tour. Et un jour, au bas d'un sapin énorme, j'ai trouvé un hibou. Un petit hibou comme ça. Il était jeune, mais il était déjà comme ça. Hein. Alors je l'ai pris. C'était fantastique. Je l'ai porté à la maison, et puis dans la nuit, je l'ai gardé sur le lit, et il a marché, tout ça. Il est venu s'endormir ici, là, comme ça. C'était extraordinaire. Alors j'avais un copain qui était vétérinaire, et je lui ai dit, comment ça se fait ça? Et il me dit, tu sais, la mère, elle a dû trouver qu'il n'était pas fini, alors elle l'a foutu dehors de son nid, quoi. Ah, j'ai dit, non, ici, on ne fait pas ça, les femmes, elles ne font pas ça. Hein. Oui, et alors, voilà. Alors, je le gardais avec moi, comme ça, la nuit. Et j'avais une maison, enfin, un appartement à Paris, sur la frontière de Neuilly et de là, à la Porte Maillot, où il y a tous les grands trucs maintenant. À ce moment-là, il y avait des clochards. Hein. C'était intéressant parce qu'ils étaient intelligents, les clochards. Puis, ils étaient construits pas mal, quoi. Comme moi, j'allais les voir avec eux. J'avais un gros chien. Puis alors, j'avais le hibou. J'allais avec eux voir le hibou. Ils regardaient ça, là. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Il a trouvé un hibou. Il dit, t'as vu ça, cet oiseau de nuit? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Et quelques années après, non, je l'ai gardé 4 mois. Il est mort. 4 mois, là, sur mon épaule, une nuit. Oh, c'était tragique. J'ai pleuré, vraiment. Vous imaginez bien combien j'ai pleuré. Et alors, j'avais fait 3 jours avant une chanson que j'ai gardée la photocopie. C'est... qui s'appelle « Les copains de la nuit », c'est-à-dire « Les copains de la nuit ». Alors, une chanson pour son honneur, quoi. Et alors, je l'ai mis dedans et je l'ai enterré au-dessous de l'endroit où sa mère l'avait foutu en l'air. Dixit, le vétérinaire, mais des fois, il se trompe. Hein. Alors, Dixit, ça veut dire, avait dit le vétérinaire. Non, parce que... non, après, je me plains qu'on dit marketing. Alors, quand j'emploie le latin, il faut que je traduise aussi, quoi. Voilà. Et alors, imaginez-vous que... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Les copains de la farce. Oui. Alors, je l'ai mis dans le... Voilà, c'est ça. Dans le papier, et je l'ai enterré, là, sous le sapin. Où devait y avoir encore sa mère, en haut, qui faisait... glou 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 glou. Et je suis parti, et... 4-5 jours après, je suis venu. J'ai gratté pour voir un peu, quoi. Vous savez ce que j'ai trouvé? Une plume. Et voilà.
Léo, à quoi ressemblait le Paris que tu as découvert? Tu avais peut-être aussi imaginé cette ville, la ville dite Lumière, la capitale, tu l'avais imaginée de Monaco?
Tu l'as imaginé, oui.
Et tu as découvert quoi?
Mais j'ai recueilli dans le train, parce qu'à quelques kilomètres de Paris, on voyait... J'étais à la fenêtre, à la portière. Je regardais, de temps en temps, je voyais alors... Paris, 60 kilomètres. Alors je disais, on va arriver dans 60 kilomètres. Paris, 40 kilomètres. Trac. Alors quand je suis arrivé, j'étais heureux, les larmes aux yeux en descendant du train. Et c'était fantastique. Paris, c'était vraiment la ville, quoi. La ville. Alors, qui a été investi, le grand mal de toutes les villes d'ailleurs, c'est pas seulement à Paris, c'est l'investissement des villes par les voitures, quoi. Je me souviens, je dis toujours, quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, j'habitais rue Saint-Benoît, dans une pension qui s'appelait Pension de l'Abbaye, qui doit exister toujours, je ne sais pas si c'est toujours une pension. Et de temps en temps, on allait avec deux ou trois copains boire un demi. En face, là-bas, chez Lippe, il fallait traverser le boulevard Saint-Germain. Sans trop exagérer, j'exagère un petit peu, parce que quand on raconte des histoires, on exagère toujours un peu pour faire bien comprendre aux gens, hein. Eh bien, quand on entendait une voiture, on se retournait. Ah, une voiture qui passe. C'est vrai. Allez-y maintenant. Et alors, on les aime plus, cette ville, parce que c'est pour comme ça, quoi.
Les gens, Roger Cossimon à la scène. Voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne, un moment, je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Papa, 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 tout comme on parle dans l'oreille d'un chien compagnon de malheur quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes. Contenu depuis trop de jours et d'amertume bien salée. Mais ta flotte s'en est allée, insensible jusqu'au lolo, roulant aux pieds de l'escalier. Tant de mètres cubes à l'heure. Tu t'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus bête qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil. Les hommes et toi, c'est tout pareil. Y a pas de pitié qui surnage, t'es vaseuse dans ton tréfonds. et je m'en vais. Adieu la scène. Tu sais, avant que je revienne, de l'eau coulera sous tes ponts.
Pourquoi aimez-vous tellement l'Angleterre, Léo Ferré? Puisque nous sommes embarqués maintenant par le Havre, nous avons débarqué, mettons tout de suite à Londres, en sautant les obstacles.
J'aime beaucoup l'Angleterre, et ça je vous dis vraiment la vérité, parce que c'est un dépaysement total à 2 heures de train de Paris, 2 heures de train avec le bateau, quoi.
Oui, parce que
et le parce train, que les Anglais, je reviens, je m'excuse.
Oui.
Je reviens toujours sur la
question. Vous êtes pris en Angleterre, oui, tout de suite.
Les Anglais aiment beaucoup, et particulièrement, et tous, dans la rue, dans le métro, partout, les chiens. Voilà.
Léo Ferré, une chanson de vous est très tendre pour moi. Vous allez encore me pardonner. Je la trouve très émouvante. Et je lis un extrait et je le lis comme un poème. Ça concerne Pépé. La connaissez, cette chanson. T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Je trouve, voyez-vous, dans une chose aussi tendre. Moi, j'adore les animaux, je suis comme vous. C'est extraordinaire ce qu'il y a de poésie dans une chose qui peut prêter à sourire pour des gens qui ne sont pas sensibles.
Ah non, vous savez que les gens qui sourient, parce que c'est pas du tout... Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Gainsbourg. Hein. Et je trouve d'ailleurs que c'est un personnage curieux. Enfin, je suis pas le seul. Et bien, et intelligent. Et je pense que c'est parce qu'il est intelligent que j'ai pu me permettre de dire ça, parce qu'il a dû comprendre. C'est pas du tout contre. C'est avec beaucoup de tendresse que je dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que les chimpanzés ont les oreilles comme ça, qu'on peut dire, ils ont les oreilles un peu dégagées, comme celle de notre ami Serge Gainsbourg. Mais ce qui était extraordinaire, un jour, je m'en suis aperçu, la nuit, quand elle dormait, elle les mettait à plat. Comme nous. Ça veut dire que dès qu'elle se levait le matin, elle ouvrait son elle mettait ses amplis, vous comprenez. Elle mettait ses trucs pour écouter, puis c'était très émouvant. Je dis, oh, c'est extraordinaire, parce que les gens l'imaginent déjà, on les oreilles comme ça. Non, les oreilles comme ça parce que ça sert, parce que c'est la nature. Et la nuit, hop, ils n'en ont pas besoin, ils les replient. Vous comprenez?
Il y a chez vous plus de tendresse pour les animaux que pour les hommes.
Oui, parce que les animaux sont innocents.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais les fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit, tandis que lui, ben... Ah ben si. Oh, Pépé. Pépé. T'avais les yeux comme des lucarnes. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres. Comme on regardait un chimpanzé chez les Ferrés. Oh, Pépé, Pépé, t'avais le cœur comme un tambour, Pépé. Comme ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus, machin, souffler sur ses 33 bougies, alors que toi, t'en avais 8, ce 7 avril de 68. Pépé. Oh, Pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça changerait rien à mon décor, Pépé. On couche toujours avec des morts. Ouais, on couche toujours avec des morts, Pépé. Oh, Pépé. voudrais avoir les mains de la mort, Pépé. Et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, Pépé. Pépé, Pépé.
Voilà, notre rendez-vous se termine ce soir. Je ne saurais le clôturer sans vous avoir parlé de ce qui me tient le plus à cœur, ce peut-être pourquoi je suis né, ce qui fait ma vie, ma passion, ce pourquoi rien d'autre n'a d'importance, la musique. Je sais faire des chansons, heureusement, comme un bottier fait des chaussures. Mais mon royaume, c'est la musique. Elle et moi, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Depuis que le monde des sons est ce qu'il est, étrange no man's land, étrange terre sans homme, où le temps n'existe pas, où l'amour se fait avec les violons dans des lits pleins de fleurs toujours épanouies, des fleurs de hautbois, de cor anglais, de harpes généreuses, de cuivre toujours ébloui, comme des soleils sans semaine, toujours à la fête. Le musicien est à la fête, seul, devant sa page, quand les oiseaux viennent piquer à sa vitre et lui donner le chant secret qu'il va transcrire pour lui seul, à moins qu'un jour, d'autres oiseaux noirs, avec une cravate blanche, un dimanche après-midi à Paris, à 5 heures, salle Pleyel, réinventent ses cris de solitude et jouent, et jouent. Un musicien joué est un musicien qui a rempli sa tâche. Alors, il peut mourir. J'ai écrit de la musique, j'en écris toujours, j'en écrirai jusqu'à ma mort. C'est une maladie, c'est un vice, c'est un devoir. Eh oui, c'est un devoir. Parce que pour les joies, eh bien, autant repasser. On écrit parce qu'il le faut, parce qu'on est fou, têtu, parce qu'on croit au Père Noël Charles Munch, au Père Noël Karajan, au Père Noël l'amoureux, le dimanche après-midi, 5 heures, salle Pleyel, et qu'au fond, ça n'existe pas les Pères Noël, parce que les Pères Noël chefs d'orchestre n'ont plus de hôte, plus rien, sinon leur dos, qu'ils soignent le mieux possible, et qui se noieraient dans le ruisseau de la pastorale, plutôt que de faire un bout de chemin avec un inconnu qui descend de sa mansarde avec des tonnes de musique silencieuse.
10 fois merci, cher Léo Ferré.
Oh, 1000 fois merci. J'espère, Léo, que vous reviendrez à une de nos prochaines soirées.
Je vous ferai remarquer que Léo Ferré n'a pas dit oui.
Il n'a pas dit oui, c'est certain, mais il n'a pas dit non.
Oui, mais enfin...
D'ailleurs, je suis sûr qu'il reviendra. À partir de mardi prochain, j'ai demandé à mes amis de venir gentiment, sans nous avertir. Oui, nous allons les recevoir impromptu et en direct.
Et en direct.
Et je compte sur vous, Poiré.
Oh, mais sans aucun doute. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, même en direct.
Vous le savez très bien. Nous batifolerons.
Nous dirons des poèmes, nous boirons peut-être.
Oui, peut-être.
Peut-être si vous avez un geste généreux,
oui.
Nous chanterons.
Ce sera très gai, vous savez.
Ce sera très gai, oui, enfin, ce sera gai, espérons-le, peut-être,
oui,
peut-être.
Oui. Alors, à mardi prochain, jeune poète, vos papiers.
Alors.
Oh, pardon, je sais plus ce que je dis. Poète, à vos luttes.
Voyons.
C'est la fin du Ferré Club.
Eh bien, je vous dis bonsoir maintenant.
À la semaine prochaine.
Je vous dis bonsoir, moi aussi.
Y a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambo. Lors me dites plus que demain on va raser gratis.